la paix. Il est 12h. Le journal de midi. Linda Christelle Ballier.
Madame, Monsieur, bonjour et merci pour votre fidélité à l'écoute de Radio de la Paix. À la une de ce 12h, le ministère du Tourisme et des Loisirs a récemment organisé la première édition du Forum du Tourisme et des Loisirs, dont l'objectif est de guider les opérateurs de ce secteur et mieux préparer l'arrivée des touristes dans le cadre de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Nous irons dans cette édition à Daoukro où les nouvelles autorités de cette collectivité territoriale entendent optimiser les recouvrements en augmentant le nombre de ses agents. Notre correspondant sur place, François Kra, nous en donnera les détails. Dans l'actualité internationale, le numéro 2 du Hamas, Saleh al-Araoui, a été tué dans une frappe israélienne dans la banlieue de Beyrouth. Et puis dans l'invité de la rédaction en fin d'édition, Jean-Claude Comé recevra ce midi Guillaume Nguessan, docteur et enseignant en géographie à l'université Jean-Laurignon Guédé de Daloa, qui fera une analyse de la problématique achat-vente du cacao ivoirien. Je vous le disais en début des titres, le ministère du Tourisme et des Loisirs a organisé la première édition du Forum du Tourisme et des Loisirs. C'était le 29 décembre dernier dans un hôtel à Cocody. Le forum qui a réuni l'ensemble des opérateurs du secteur visait à mieux les outiller en termes de prestations à offrir pendant la Coupe des Nations de football en terre ivoirienne. Didier Blé pour le reportage.
Le tourisme et les loisirs ne sont pas de simples industries, ce sont également des maillons forts qui peuvent transformer notre communauté. Jean-Marie Kouakou, directeur du cabinet du ministre du Tourisme et président du comité d'organisation.
Les objectifs du forum sont clairement définis. Donner des orientations aux opérateurs sur les dispositions à prendre en vue de leur participation optimale à l'animation pendant la CAN. Présenter les offres de service des opérateurs à déployer pendant la CAN.
À travers la première édition de ce forum et pour le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, l'idée est de préparer le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et des loisirs à recevoir les touristes. Il s'agit à travers cette rencontre de rendre la destination Côte d'Ivoire plus attrayante.
Il fallait inventer un forum parce que nous avons signé beaucoup de conventions, nous avons fait beaucoup de rencontres et nous avons créé des conditions qui permettent aujourd'hui à notre secteur d'arriver à un niveau de réalisation pour que ce secteur puisse aider le pays à aller de l'avant.
La CAN est une formidable aubaine à saisir, Siandou Fofana.
Avant Covid, on était à autour de 2 millions et quelques de visiteurs à l'international. Grâce au sport, on va accueillir l'équivalent des visiteurs internationaux que nous réalisons en un an, en un mois. Si ce n'est pas le sport, quel est le secteur qui peut nous donner cette possibilité?
200 participants, une cinquantaine de stands, des partenaires financiers. Ce forum, notons-le, a permis de procéder à des signatures de conventions sur la qualité et l'usage du Made in Côte d'Ivoire dans les établissements hôteliers.
Et justement, en prélude à cette CAN en terre ivoirienne, l'État a décidé d'étendre les activités de la SOTRA, la société de transport abidjanais à l'intérieur du pays. Ainsi donc, la SOTRA a officiellement démarré ses activités à San Pedro le vendredi dernier. Cette présence de cette structure, en plus de faciliter le déplacement des populations à moindre coût, permettra également les déplacements dans des conditions de sécurité meilleures. Les détails avec Kofi Benson, notre correspondant dans le Bassa-Sandra.
Les activités de la SOTRA démarrent avec quatre lignes dans la ville de San Pedro. La ville balnéaire, avec ses potentialités économiques, mérite d'être plus compétitive avec une facilité de déplacement selon Meïté Boaké, directeur général de la SOTRA.
Le gouvernement a souhaité déployer la SOTRA à San Pedro pour rendre cette ville compétitive. Les lignes que nous avons identifiées à l'heure actuelle pour aller d'un terminus à un autre, les populations paient 600 francs. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de la SOTRA, ces trajets coûteront 200 francs.
Pour Kone Diomo, directeur du cabinet du ministre des Transports, l'arrivée de la SOTRA à San Pedro répond à plusieurs préoccupations.
L'arrivée de la SOTRA vient résoudre l'épineuse question des accidents récurrents de la circulation. De plus, pendant la CAN, la demande de transport interurbain augmentera et il nous faudra assurer à nos visiteurs et aux locaux un transport de qualité.
Nomel Firmin est le président du groupement des consommateurs de San Pedro. Pour lui, cette présence de la SOTRA est à saluer.
Les déplacements et était difficile, d'autant plus qu'il fallait à la fois utiliser plusieurs taxis et donc plusieurs stationnements, ce qui gonfle bien entendu le portefeuille. Donc ça règle un problème de cherté de la vie, ça règle aussi un problème de rapidité dans le déplacement. Quand on sait que les bus de la Sotra font véritablement de longs trajets, ce sera bénéfique pour les consommateurs.
Il a été demandé à la population de San Pedro de préserver le patrimoine de la Sotra, qui est un bien commun. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Et puis Abidjan va abriter du 20 au 24 mai 2024 une formation dans le secteur de la construction, depuis la production industrielle jusqu'à la mise en œuvre sur les chantiers. Cette expérience qui se veut unique est à l'initiative de la Confédération des PME-PMI du bâtiment et des travaux publics. Les explications dans cet élément de Mata Touré.
Ce forum urbanique 2024 s'impose comme une occasion unique pour les professionnels du secteur de la construction d'acquérir des connaissances approfondies et de bénéficier des conseils d'experts et d'explorer surtout les dernières tendances. Une initiative qui se veut une approche plus complète de l'enseignement et de la formation dans le domaine de la construction sera doté le président de la Confédération des PME-PMI du BTP.
Ce forum qui n'est non seulement un forum commercial, parce que des gens viendront vendre leurs matériaux de construction. C'est un forum aussi qui les forme avec les spécialistes qui viendront faire leurs démonstrations quand il s'agit de la construction.
La thématique de ce forum tourne autour de la problématique des effondrements des bâtiments en Côte d'Ivoire et de savoir surtout comment le numérique et le digital peuvent aider à résorber ce problème. C'est Ijoas de Ecobiz Group et partenaire dans l'organisation de ce forum.
Il y aura un échange, un regard croisé des experts qui vont partager cela pour qu'il y ait une sorte de fertilisation des échanges qui vont aider éventuellement s'il y a des choses qu'on ignore ou qu'on ne sait pas bien faire, qu'on puisse récupérer ces savoir-faire et améliorer les conditions de vie en Côte d'Ivoire. En matière de construction, il y a des appareils électroniques qui permettent d'avoir des précisions dans le calcul, dans la mesure des distances, ce qui fait qu'on peut éviter beaucoup d'erreurs.
Un forum qui se tiendra du 20 au 22 mai prochain à la Questab, à Abidjan.
À Deucro, la nouvelle équipe municipale envisage d'engager des démarches auprès de la tutelle pour qu'elle l'autorise à augmenter le nombre de ses agents afin d'optimiser les recouvrements. Une décision prise au sortir de la dernière réunion du conseil municipal qui s'est tenue le mercredi dernier à la mairie. Plus de détails sur cette session qui a regroupé les couches sociales de la ville avec notre correspondant sur place, François Kra.
Le premier adjoint au maire revient sur le sens de la démarche. Conan Evariste.
Il faut que nos recettes respectent un peu la taille de la commune. Donc pour que ça puisse respecter la taille de la commune, il faut qu'on ait le personnel pour faire le travail.
Pour sa part, le sous-préfet de Daokro, Aboubakari Kone, exhorte les populations à cultiver l'esprit de civisme fiscal pour soutenir les projets d'investissement du conseil municipal.
Nous devons nous tous sensibiliser nos populations à l'effet de s'approprier la culture du paiement des taxes. Parce que c'est sur les taxes que la mairie fait des programmations au profit des populations.
En même temps, le représentant du préfet de Daokro invite les conseils municipaux à participer assidûment aux réunions du conseil municipal sous peine de sanction. Abou Bakari Kone.
Il y a des dispositions qui sont prises et qui sont connues. Donc il a demandé que je puisse rappeler ça au maire, de rendre compte à la tutelle des absences répétées non justifiées des conseils municipaux aux sessions du conseil municipal.
La commission économique, financière et domaniale a fait remarquer à cette occasion qu'il n'y a pas de recettes perçues par la mairie sur les exploitations minières dans la commune. Elle demande donc à la municipalité d'entreprendre des démarches auprès des autorités en charge de la gestion de ce secteur pour remédier à la situation. Le budget primitif de l'exercice 2024 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 616 441 000 francs CFA. François Kra, Daokro, Radio de la Paix.
Direction le Tonkpi pour retrouver notre correspondant Stéphane Adams qui a suivi dans le canton Kaleux l'intronisation de son chef en la personne de Yeu Gomé Germain. Et ce, après un an de report lié à l'opposition de certains prétendants au poste. Un point d'accord a été trouvé grâce à la médiation du chef suprême de la chefferie traditionnelle du Tonkpi, Guy Pascal, et du président du conseil régional, Albert Mabri Toikeus.
C'est dans un dénouement total que la porte-parole du comité d'organisation a fait cette annonce à l'assistance.
L'événement qui nous réunit, c'est la paix, la cohésion et du développement de la région du Tonkwi. Voici enfin arrivé ce jour tant attendu, l'intronisation de notre chef Yeur Gomé Germain. Félicitations papa. Va et représente dignement les 54 villages du canton Calais auprès de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de la Côte d'Ivoire.
Une cérémonie qui a tout son sens, selon le président du conseil régional du Tonkwi, Albert Mabritoakus.
Nous partons d'ici satisfaits. On va l'accompagner, évidemment. Et nous, ce que nous avons arrêté au niveau du conseil régional pour le nouveau mandat, c'est de mettre en place un organe qu'on appelle comité régional de développement, avec la participation de la chefferie, qui vont être avec nous dans l'orientation du développement, dans l'utilisation des moyens que le président de la République et le gouvernement mettent à notre disposition. Et donc, ils seront nos conseils et on n'entreprendra rien sans leur avis favorable. Je crois que c'est ce que nous allons faire.
Ce participant en fin de rencontre.
C'est le message de l'unité, de la cohésion que j'ai lancé à l'endroit des chefs de tribu, des chefs de village, des chefs de communauté. C'est un honneur pour ce village d'abriter les sièges de la chefferie cantonale. Je demande un appel à tous les jeunes de se mettre au travail et d'être des modèles, de faire en sorte que vraiment ce village soit un village de référence, qui soit vraiment des soutiens pour le chef qui est donc ici investi aujourd'hui.
Rappelons que la présence du ministère de l'Intérieur, représentée par le corps préfectoral, était effective. Stéphane Adams, Danané, Radio de la Paix.
Et alors que nous assistions à un début de mois de décembre 2023 sous l'Harmattan, ces dernières semaines ont plutôt laissé place à des pluies sur le littoral ivoirien. Qu'est-ce qui expliquerait ce phénomène et à quoi faudrait-il s'attendre pour les jours à venir? Daouda Konaté, le directeur de la météorologie nationale à la Solexam, que nous avons eu en ligne, nous éclaire.
Alors, nous sommes actuellement en période d'Harmattan. Et la particularité du littoral ivoirien, c'est que nous avons une poussée d'humidité au niveau du littoral venant de la mer. Associé à cette poussée d'humidité, le réchauffement qui est dû au soleil, comme vous avez constaté, il y a moins de nuages, donc de fortes chaleurs qui sont abattues, par exemple, pendant une semaine, deux semaines ou quelques jours. Ces deux effets vont entraîner effectivement des développements orageux. Et c'est ce qui explique les pluies que nous constatons au mois de décembre et au mois de janvier. Mais cela n'explique pas le fait que nous sommes toujours en période d'Harmattan dans la partie sud et dans la partie nord du pays.
Et donc à quoi devrions-nous nous attendre pour ce début de 2024?
Écoutez, ce sont des situations qui sont régulières. Donc, elles apparaissent. Il y a des conflits entre l'air chaud qui vient de la mer et humide et l'air frais qui vient du nord. Donc, il peut arriver des moments où on va s'entendre effectivement à ces développements orageux. Donc, cela peut se répéter ou ne pas aussi se répéter, mais nous suivons la situation à travers nos bulletins d'alerte, nos bulletins de vigilance que nous diffusons régulièrement sur les différents canaux.
C'était à l'instant le directeur de la météorologie nationale à la Sodexam, Daouda Konaté. Dans l'actualité internationale, le numéro 2 du Hamas palestinien Saleh al-Arouri a été tué dans une frappe attribuée à Israël sur la banlieue de Beyrouth hier soir, ont annoncé le mouvement palestinien et des sources officielles libanaises. C'est la première fois depuis le début de la guerre à Gaza, il y a à peu près 3 mois, qu'Israël frappe les abords de la capitale libanaise. Le premier ministre libanais Najib Mikati a donc dénoncé un crime israélien et accusé le pays de vouloir entraîner le Liban dans une nouvelle phase de confrontation. Et sans transition, nous passons à une page sportive. Le Maroc, la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie composent le groupe F de la 34e édition de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et donc dans cette édition, dans ce journal, César Yao nous donne un aperçu des forces en présence de l'opposition. République démocratique du Congo, Zambie.
Le 17 janvier à 20h, RD Congo-Zambie au stade Laurent Pokou. La RD Congo compte 19 participations à la CAN. Meilleure performance vainqueur en 1968 et en 1974. L'équipe fait figure d'outsider dans ce groupe F et semble suffisamment armée pour terminer au moins à la seconde place. Les Léopards de retour, après avoir manqué la dernière édition, ont bien progressé au cours des derniers mois sous les ordres de Sébastien Alsaciens des Sabres. Ils avaient terminé en tête avec 12 points de leur poule lors des qualifications pour cette CAN 2023. La Zambie compte 14 participations, meilleure performance vainqueur en 2012. La Zambie, bien que moins mise en avant, n'est pas à sous-estimer. L'histoire des Chipolopolo Boys dans les compétitions africaines et leur capacité à surprendre pourrait jouer un rôle crucial dans leur parcours au sein de ce groupe F. Ils avaient notamment terminé en tête de leur poule des éliminatoires de la CAN avec 13 points devant la Côte d'Ivoire qu'ils ont d'ailleurs corrigé 3-0 en juin dernier, une possible équipe surprise de cette édition. RD Congo-Zambie, les deux sélections s'étaient affrontées en phase de groupe de la CAN en 2015. Match nul, un but partout.
Dernière articulation de ce journal, l'invité de la rédaction. Et ce midi, Jean-Claude Comé reçoit pour vous Guillaume Nguessan, docteur et enseignant en géographie à l'université Jean-Lorignon Guédé de Dallois pour faire un gros plan sur l'achat du cacao ivoirien. Les négociants locaux présentent des difficultés à honorer leur contrat d'achat de fèves pour la campagne 2022-2023. La raison évoquée par ceux-ci, c'est le surenchissement de la prime offerte par les géants internationaux aux planteurs. En plus de cela, il est constaté la baisse de la production du cacao due à plusieurs facteurs, notamment climatiques. Et donc, pour analyser cette situation, l'expert en cacao, docteur Guillaume Nguessan, est avec Jean-Claude Comé.
Docteur Guillaume Nguessan, bonjour.
Bonjour.
Docteur Nguessan Guillaume, d'abord expliquez-nous, c'est quoi la réalité quand on parle de négoce du cacao? Quels sont ces acteurs-là qui ont ce rôle de négociant?
Alors, je voudrais déjà dire, en ce qui concerne le cacao, vous savez que c'est le produit phare de l'économie ivoirienne. Et donc, il y a de nombreux acteurs. Des contrats sont attribués par l'organe de gestion de la filière, notamment le Conseil du café et du cacao, à des entreprises, à des multinationales, et aussi à des entreprises locales en vue donc d'acheter auprès donc des producteurs de cacao à mettre à la disposition donc d'éventuels acheteurs.
Alors donc il y a des acteurs locaux hein, qui selon les chiffres communiqués par le confrère Africa Intelligence, c'est seulement 40% hein, de leurs contrats signés pour la campagne 2023 et 2024 qui est exécuté pour l'instant. Ils mettent en cause des primes que les acteurs internationaux auraient mis, des primes qui vont jusqu'à 100 francs. Alors quel est le rôle justement de ces primes-là?
Il faut dire que la prime a été instituée pour encourager les producteurs et pour les récompenser aussi pour le travail qu'ils font. Donc, il appartient donc aux négociants donc, d'attribuer ces primes-là aux différents producteurs, on va dire, à travers leur coopérative. Alors, ce que vous décrivez aujourd'hui, ça veut dire quoi? Est-ce que les négociants étrangers, en attribuant des primes aussi élevées, jouent sur la concurrence avec les négociants locaux?
C'est cela. Ça détourne un peu la production. Les producteurs sont plus intéressés à aller livrer donc ces fèves-là aux acteurs internationaux.
Déjà, il faut dire que le contexte actuel, il est un peu différent. Donc, on ne doute pas de ce que le conseil dit, mais je veux dire qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent donc cet état de fait. C'est-à-dire que le fait que les négociants locaux ne remplissent pas actuellement totalement le contrat qui leur a été donné. Alors, vous savez que nous sommes dans un contexte où les conditions climatiques ont joué sur la production. De ce fait, je crois que le Conseil du café et du cacao avait déjà pris les dispositions pour limiter les contrats donc d'achat du cacao pour permettre, lorsque nous serons dans la phase de la campagne, permettre donc d'avoir suffisamment donc de produits sur le marché. Alors malheureusement, les conditions climatiques n'ont pas permis d'avoir la production escomptée. Du coup, il devient difficile pour les négociants de remplir leur cahier de contrat. Donc, il y a ces facteurs qui peuvent expliquer cela. Alors, lorsque les négociants internationaux jouent sur la prime pour avoir, on va dire, plus de cacao avec les producteurs, c'est de bonne guerre, puisque ils sont dans une concurrence. Est-ce que leur acte est illégal? Donc, il appartient donc à la structure et à la justice de voir si cet acte est illégal afin que le Conseil du café et du cacao puisse corriger le tir. Mais si ce n'est pas illégal, je pense que ça rentre bien dans le cadre de la concurrence et ce sont les producteurs qui s'en lavent les mains.
Alors, mais donc, acteurs. Ce qui est à craindre, c'est que ces acteurs locaux, in fine, risquent de disparaître s'ils ne peuvent pas honorer donc leur contrat face à des géants du secteur qui ont plus de moyens. Est-ce que le Conseil Café Cacao a un mécanisme de protection de ces négociants locaux-là?
Alors, d'abord, dans un premier temps, ce qu'il faut noter, c'est que, vous savez, nous sommes dans du business. Et lorsque nous sommes dans une telle situation, il appartient donc aux différents groupes d'acteurs, notamment les négociants locaux, d'être plus forts afin donc de répondre à la concurrence imposée par les négociants étrangers. Alors, est-ce que le Conseil Café Cacao a une stratégie pour pouvoir permettre à ces négociants de ne pas disparaître dans cette atmosphère de concurrence imposée par les négociants étrangers? Oui, je crois, et je n'ai pas toute la lecture du texte, mais je crois qu'il est fait obligation à ces négociants étrangers-là d'acheter une part de leur contrat avec les négociants locaux. Je crois que cette disposition existe. Ça pourra permettre donc aux négociants nationaux de pouvoir maintenir leur activité en développant aussi des stratégies pour être beaucoup plus forts sur le terrain.
Alors, mais au-delà de cela, vous parliez donc de la baisse de la production. Hein, c'est un constat. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette baisse de la production du cacao ivoirien?
Alors, la situation du cacao en Côte d'Ivoire aujourd'hui est soumise à beaucoup de problèmes. On va dire des problèmes naturels. Nos systèmes de culture ont fini par dévaster la forêt et donc modifier un peu les conditions climatiques. Alors, le cacao est une plante qui a besoin de se développer dans un environnement où il y a suffisamment d'eau, mais une certaine hauteur de pluviométrie bien répartie dans l'année. Ce n'est pas le cas. Il y a des perturbations pluviométriques, tantôt qui part avec des sécheresses, tantôt il y a beaucoup trop de pluie. Donc, ces perturbations climatiques ont dérangé donc la production. Donc, nous avons observé une sous-production. Mais il n'y a pas que ça. Ce qu'il faut noter, c'est que la plupart des plantations ont atteint leur durée de vie économique. Autrement dit, la plupart des plantations ont vieilli et donc produisent moins, n'ont plus assez de force économique pour permettre aux producteurs vraiment de tirer le maximum.
Faut-il pas craindre que la Côte d'Ivoire ne respecte pas à terme donc ses contrats de vente quand nous savons que nous vendons par anticipation?
Il faut que la Côte d'Ivoire puisse, en fonction de sa réalité locale, établir ses contrats de vente-là. Donc, il faut que nous soyons objectifs dans nos actions, il faut que nous soyons prospectivistes dans nos actions pour que nous ne puissions pas promettre au marché international une quantité que nous ne sommes pas capables d'avoir.
Docteur Guillaume Guesson, je vous remercie.
Merci à
vous suiviez l'invité de la rédaction, Guillaume Nguesson, docteur et enseignant en géographie à l'université Le Champ Lourignon Guédé de Dalloy, également expert en cacao. Il était interrogé par Jean-Claude Decomé. Un entretien qui met un terme à notre journal Le Rappel de l'Essentiel. Le ministère du Tourisme et des Loisirs a récemment organisé la première édition du Forum du Tourisme et des Loisirs dont l'objectif est de guider les opérateurs du secteur et mieux préparer l'arrivée des touristes dans le cadre de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, la revue de presse pilotée par Francis Cassis aujourd'hui.
Bonjour à tous. C'est par l'actualité.